Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle semaine qui démarre. Alors cette semaine, en ce début de semaine, de trois petits sujets que j'ai trouvés. Alors on va parler d'index glycémique lié à la réponse d'un repas et non d'un aliment isolé. On va parler d'aliments anti-âge. Donc c'est lié un petit peu à l'activité anti-inflammatoire ou pro-inflammatoire. Et on va parler aussi de la marche lestée pour être sec. Voilà. Donc avant de démarrer, je voulais vous présenter rapidement ce petit cours que j'ai fait ce dimanche à 10h là, qui est sorti à 10h sur le site. Donc vous avez le lien là dans les notes comme d'habitude de l'émission, que vous avez reçu soit par mail, soit que vous pouvez aller zioter en cliquant dans les liens de sous podcast, on va dire. Donc j'ai parlé du chocolat, parce que le chocolat étant le petit plaisir, on va dire, quotidien de beaucoup de pratiquants de fitness, hein, je me devais, j'avais envie surtout d'en parler, parce que moi j'adore ça, j'aime le chocolat noir, donc moi c'est plutôt du 90%, voilà, et j'avais envie d'en parler. Donc comment profiter du chocolat, comment le sélectionner, comment choisir, comment le consommer, quelle quantité, mais bon, ça c'est le côté pratique, mais également pas mal d'études pour voir un petit peu, parce que vous savez, on entend tout sur le chocolat, dès qu'il y a un aliment plaisir en fait qui a quelques vertus santé, ça y est, ça peut sauver la planète, la paix dans le monde, enfin voilà. Donc j'essaie quand même de tempérer un peu tout ça et de vous apporter ce qu'il se dit, en tout cas à travers les recherches scientifiques, plus un petit peu le côté, l'aspect pratique et de savoir comment le consommer, etc. Donc je vous ai mis un lien là dans les notes qui s'appelle comment profiter du chocolat, c'est fitness et chocolat, c'est ce qu'il faut savoir. Vous cliquez, vous basculez, vous tombez dans le contenu VIP privé masqué derrière le rideau et vous accédez à ça et également à toutes les autres, hein. C'est un accès complet, c'est comme Netflix mais version fitness. Voilà. Bon, on démarre avec le premier sujet du jour. Alors le premier sujet du jour, c'est l'IG d'un aliment isolé ne diffère pas énormément d'une prise pendant un repas varié. Donc l'idée derrière ça, c'était, alors vous avez le lien, la source, hein, encore une fois dans les notes. Bon, ils ont voulu savoir si parce que vous savez, si vous connaissez un peu la notion d'index glycémique, pardon. Vous savez que, par exemple, quand on prend du pain blanc, on va faire manger du pain blanc à l'individu, on va le tester une heure après, enfin, il y a plusieurs mesures qui sont prises, et on va voir un petit peu la réponse glycémique par rapport à l'ingestion d'un aliment. Donc, on fait en sorte qu'il mange que ça, donc c'est pas du pain avec du beurre, ou du pain avec du Nutella, ou du pain avec du jambon, on prend que du pain. Et en fait, par rapport à ça, on fait un classement, un tableau des réponses glycémiques de tout un tas d'aliments, et donc on obtient plus ou moins l'index glycémique. Voilà. Et en fait, ils se sont dit, bon, ben ouais, mais est-ce que ça change réellement quand c'est consommé à l'intérieur d'un repas? Parce que oui, c'est vrai, quand même moi, je le disais dans d'autres contenus, donc c'est là où il faut être capable d'aller voir un petit peu ce qu'on a fait par le passé. Ça avait tendance à tempérer, c'est-à-dire que quand c'était consommé avec des fibres ou avec des protéines ou avec des sources de graisse, la réponse n'était pas réellement la même. Et en fait, là, les chercheurs, donc, ils disent, hein, nous avons été stupéfaits du degré de fiabilité avec laquelle nous avons pu prédire le niveau de sucre sanguin. Donc en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils ont, par rapport à l'index glycémique d'un aliment, ils ont intégré cet aliment dans un repas varié, et ils se sont dit, bon, bah, logiquement, vu la teneur en glucides du repas, et la nature des glucides consommés durant le repas, la réponse glycémique devrait être à peu près de temps, et finalement, ils sont aperçus que c'était plutôt fiable. Donc en se basant non pas ils ont pas pris compte réellement des fibres et tout ça, ils se sont dit, bon, bah, vu qu'il y a tel glucide, ce sera plutôt ça. Et donc, ils disent la composition en glucides, lipides et protéines des repas était pourtant extrêmement variable. La réponse glycémique variait d'un facteur 5 et pourtant 90% de cette variation s'explique par la teneur en glucides du repas et les valeurs de l'index glycémique des aliments comme indiqué dans les tables publiées. Nous avons constaté que l'index glycémique est un marqueur extrêmement fiable, que les sujets consomment une seule portion d'un aliment ou un repas normal. Nous avons rapporté ces résultats dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Donc, à la fin, ils disent quand même que il faut pousser un peu plus les recherches avec beaucoup plus de repas parce qu'ils ont testé sur assez peu de repas. Mais bon, quand même, ça donne une indication par rapport aux gens qui auraient tendance à se rassurer un petit peu sur le fait de manger du pain blanc à l'intérieur d'un repas en se disant bon bah c'est bon, je le mange pas de manière isolée, j'ai eu des graisses avec, des fibres avec, donc ça va. Non, l'idéal étant toujours de faire les choix dans l'autre sens, c'est-à-dire de plutôt intégrer des glucides à index glycémique modéré à bas à l'intérieur d'un repas. C'est la meilleure chance d'avoir une bonne réponse glycémique. Quand je dis bonne, ça veut dire plutôt diffuse plutôt qu'aiguë et prononcée. Voilà. Donc voilà, ça nous permet d'avancer un petit peu. Alors on parle pas là, par exemple, ça prend pas en compte la cuisson. Et peut-être qu'un jour il y aura des controverses par rapport à ça aussi. Mais pour le moment, vous savez, quand on parle de pâtes trop cuites, de riz trop cuit, de riz gluant, ou alors de pommes de terre trop cuites ou cuites d'une certaine façon, là il y a bien modification parce que on est à l'intérieur de l'aliment. C'est-à-dire que l'aliment même, par exemple une pomme de terre refroidie, a tendance à avoir un index glycémique amoindri par rapport à une pomme de terre cuite bien chaude, quoi. Bon, après ça c'est dû à la structure de l'amidon qui une fois chaud a tendance un petit peu à se secouer, donc du coup à être un petit peu plus assimilable, alors que quand c'est refroidi ça se restructure un petit peu et donc la digestion en est légèrement ralentie, on va dire, donc ce qui aussi tempère la réponse glycémique. Voilà, bon, c'était juste une petite information. Moi j'aime bien ce genre d'information dans le sens où je sais ça casse une croyance pour certaines personnes qui avaient tendance à rationaliser, à se dire bon bah ça va, c'est à l'intérieur d'un repas, donc la réponse glycémique va être faible puisque je consomme ça avec des fibres et tout ça. On voit bien encore une fois que tout tend à continuer à s'orienter vers une alimentation saine, puisque voilà, même ces petits hacks, ces petits détournements que pensaient faire certains se révèlent finalement pas très efficaces. Donc voilà. Bon, de toute façon, je note encore une fois que tout le monde, même les pratiquants de fitness, ne s'orientent pas forcément vers une alimentation cohérente par rapport à leurs objectifs, leurs attentes en tout cas. C'est quelque chose que je retrouve très fréquemment quand je discute avec des gens et tout. C'est vrai que l'alimentation a toujours tendance, les gens rationalisent beaucoup en fait, ils se disent bon bah, ça va, c'est pas, je mange pas si mal que ça, donc c'est vrai, et beaucoup de personnes font déjà très attention, mais ils font encore un ensemble de petites erreurs qui les empêchent finalement d'arriver à ce fameux palier où voilà, ils arrivent à avoir un niveau de sèche satisfaisant, où ils arrivent juste à trouver la forme, quoi. Voilà, bon, on s'arrête là pour ce sujet. Deuxième sujet, des aliments pour mieux vieillir. Donc quand on lit ça, c'est toujours les titres qui vont attirer le regard. Alors je sais pas si vous, ça vous attire forcément. Moi c'est vrai que je suis peut-être pas encore assez avancé en âge pour que ça soit vraiment des sujets stimulants pour moi. Je sais que ça peut plaire à beaucoup de personnes. C'est toujours intéressant de le savoir en fait, puisque ce que l'on fait aujourd'hui aura toujours un impact négatif ou positif dans 3, 4, 5, 10 ans. Et d'ailleurs, les données que j'avais partagées, je sais plus pourquoi, avec le diabète, pré-diabète et non-diabète, on voyait qu'il y avait des effets qui étaient à très court terme. Par exemple, quand on était en pré-diabète, les actions qu'on avait au quotidien pouvaient avoir des effets très rapides, c'est-à-dire dans les 2-3 ans à venir, déclencher ou non une pathologie. Donc bref, donc là, c'est des aliments pour mieux vieillir. Donc c'est étrangement, non pas dans une revue nutrition quoi, mais dans une revue cerveau et psychologie. Donc ils disent, alors là les chercheurs ont recruté 1059 personnes âgées en moyenne de 73 ans et ne souffrant d'aucune démence au début de l'étude, donc de problèmes, enfin pas mentaux mais on va dire de la démence, ça peut être par exemple, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire, peut-être Alzheimer ou en tout cas des problèmes de mentaux, de perte de mémoire ou autre. Donc ils ne souffrant d'aucune démence au début de l'étude, donc ils ont pris des individus qui étaient de ce côté-là plutôt en bonne forme et les ont suivis pendant environ 3 ans en analysant leur alimentation et en leur faisant passer des tests cognitifs réguliers. Donc ils disent ainsi, les chercheurs ont classé les aliments par groupe, produits laitiers, céréales, fruits, légumes, viande, poissons, légumineuses, graisses ajoutées, boissons alcoolisées, sucreries, et ils ont calculé pour chaque participant de leur cohorte un score dit inflammatoire, allant de moins 10 pour le moins inflammatoire à plus 10 pour le plus inflammatoire. Donc selon les propriétés antioxydantes connues, non connues à ce jour, de chaque groupe d'aliments et les quantités consommées. Et oui, forcément, parce que vous pouvez vous dire, vous consommez des antioxydants, mais si vous en prenez 10 grammes le matin et qu'après c'est que du pro-oxydant, la balance n'est pas super équilibrée. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le choix alimentaire, mais également la quantité, le ratio de chaque, pour essayer de voir si vous êtes plutôt dans une balance pro-inflammatoire ou pro-anti-inflammatoire. Donc à la fin de l'étude, 6% des participants ont développé une démence. Il s'agissait de ceux ayant le score inflammatoire le plus élevé. Plus précisément, après ajustement, donc la fin de l'étude, c'est 3 ans après. Hein, donc on n'est pas sur des grosses durées, quoi. Hein. Donc plus précisément, après ajustement des autres facteurs de risque potentiels comme l'âge, le sexe et le niveau d'étude, toute élévation d'un point du score alimentaire inflammatoire était associée à une augmentation de 21% du risque de démence. Et le tiers des sujets ayant les scores les plus élevés dans cette cohorte avait 3 fois plus de risque d'en développer une, donc un risque de démence, quoi. Voilà, donc c'est encore une fois, vous savez, les aliments dits antioxydants, c'est intéressant d'en consommer, quel que soit l'âge de toute façon. Il y a juste un petit bémol quand on pratique, et d'ailleurs je vois que beaucoup de coachs, et bon, vu qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, je sais que le message passera, mais je vois que beaucoup de coachs ont un peu surfé sur la vague des bombes antioxydantes, des jus et tout ça après l'entraînement. Faites attention à ça, c'est juste une petite, voilà, un petit conseil que je donne, parce que l'idée étant quand même de préserver vos athlètes, enfin les gens que vous préparez, et vos élèves, je sais pas comment vous les appelez d'ailleurs, mais la réaction inflammatoire post-entraînement est nécessaire pour la progression, c'est-à-dire que les petites molécules pro-inflammatoires qui se mettent à circuler juste après un entraînement ne sont pas à bannir, ne sont pas à éliminer ou quoi que ce soit. Il faut leur laisser faire leur boulot, puisque c'est par cette réaction inflammatoire que la progression, la récupération va s'installer. Donc si vous avez eu tendance et vous avez tendance à renvoyer des recommandations du style manger des tonnes de myrtilles mélangées à votre protéine ou des enfin même vos vitamines, des choses comme ça juste après l'entraînement, ça n'est pas forcément une bonne idée. Préférez plutôt les utiliser assez espacés de l'entraînement. Donc typiquement, une personne qui s'entraînerait en fin de journée, prenez-les au petit déjeuner. Une personne qui s'entraîne le matin au réveil, bah, prenez-les plutôt après le repas du midi, par exemple, dans l'après-midi ou autre. Alors même si je sais que pour beaucoup, c'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser que tout ce qui est du règne vitamine et tout, c'est mieux le matin puisque ça donne de l'énergie et tout, ce qui n'est pas forcément vrai. En fait, d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui demanderaient un petit peu plus de... Par exemple, la vitamine C, beaucoup de personnes ne se diraient pas « je vais prendre de la vitamine C avant de me coucher parce que ça va me réveiller ». Ben, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, puisque la vitamine C a plutôt tendance à détendre, à relaxer. Souvent, c'est peut-être d'autres substances qui ont été prises avec, notamment souvent dans des complexes de multivitamines ou même des vitamines un peu bon marché, comme ça, que vous trouvez de la vitamine C, qu'on trouvait avant peut-être plus, d'ailleurs, il y a quelques années dans les pharmacies. C'était couplé soit avec du guarana, soit avec de la caféine, soit avec du sucre, des choses qui pouvaient un peu faire monter comme ça le niveau d'énergie, mais ce n'était pas réellement la vitamine C qui vous dynamisait, quoi. Donc bon, bref, mieux vaut, voilà, le prendre de manière espacée. Alors moi, je fais quand même une différence entre un fruit comme un peu une banane, par exemple, et vraiment le comment dire du gingembre avec avec des fruits rouges, vraiment la bombe anti-inflammatoire. Si vous prenez votre petite banane après l'entraînement avec votre collation protéinée, c'est pas comme ça que. Enfin, c'est là, attention, ne criez pas au loup ou quoi que ce soit. C'est vraiment quand il y a une volonté précise d'augmenter son apport anti-inflammatoire juste après l'entraînement. Là, je trouve que c'est pas forcément cohérent et on n'en sait rien, mais probablement que ça peut aussi peut-être conduire au risque de blessure à long terme. Je parle évidemment pas à court terme, mais si on en a besoin pour récupérer de cette réaction inflammatoire, il se peut que d'enchaîner des entraînements sans avoir une récupération entière, en tout cas sans que l'on ait laissé son corps réagir, un petit peu comme un système immunitaire finalement, laisser le corps un petit peu monter dans les tours, un petit peu se désorganiser pendant une période de temps donné de je sais pas, peut-être quelques heures, en tout cas de manière aiguë, pour qu'il puisse créer sa réaction inflammatoire, puis après réparer, se remettre en ordre, quoi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant parce que là on voit que pour bien vieillir, il y a cette notion là. Donc voilà. Et d'ailleurs, je tenais à partager aussi avec vous. Vous savez, par rapport au jus de fruits, vous savez, souvent on a des gens qui disent, moi le matin je démarre avec un jus de fruits parce que ça me donne de l'énergie, donc typiquement le jus d'orange ou alors même des oranges, des choses comme ça, donc les agrumes, quoi, des jus d'agrumes. Et souvent ils se disent, mais moi si j'ai pas ça le matin, si j'ai pas mon jus d'orange le matin, je démarre pas. Et en fait, beaucoup pensent que c'est dû à la teneur en vitamine C, donc qu'ils ont un boost de vitamines comme ça, que ça les réveille, etc. Finalement, moi qui fais pas mal de petites recherches à droite à gauche, il y a une petite hypothèse qui s'installe, c'est que dans les agrumes, vous avez une substance qui va permettre aider à maintenir les enzymes qui soutiennent le cortisol. Donc si vous avez des enzymes qui viennent défoncer votre cortisol. Et je vous simplifie à mort, hein. C'est vraiment pour essayer de vous expliquer. Et à l'intérieur, enfin, les agrumes permettent justement d'avoir une meilleure, entre guillemets, production de cortisol. Donc dans les agrumes. Donc ils en ont parlé pour le pamplemousse, mais certainement dans les agrumes vous devez aussi avoir les oranges. Donc ce qui veut dire quoi par rapport à ça? Le matin, vous savez qu'on a des rythmes hormonaux. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Donc, nous avons des rythmes hormonaux et le matin au réveil, ce qui nous permet d'être réveillés, ce qui nous permet d'être sur le qui-vive et de rentrer dans l'action assez tôt le matin pour aller bosser, pour aller s'entraîner et tout, c'est notre sécrétion de cortisol qui atteint son pic plutôt en début de matinée, ce qui nous permet de nous réveiller, de nous donner de l'énergie, etc. Si vous avez quelque chose qui, de manière enzymatique, en tout cas avec des réactions enzymatiques, vous empêche d'avoir cette production de cortisol, vous allez être plutôt léthargique puisque vous tentez de vous réveiller, en tout cas votre corps tente de s'éveiller et il n'a pas la production nécessaire de cortisol pour se réveiller. Et bien dans les agrumes, il y a des substances qui permettent justement de maintenir, enfin d'empêcher ces enzymes de cannibaliser en fait le cortisol et donc du coup d'avoir une sécrétion de cortisol normale, donc de l'énergie. Donc encore une fois, vous voyez que dans le monde de l'entraînement, du sport et tout, on cherche en permanence à réduire son taux de cortisol parce que c'est synonyme de stress, de catabolisme et compagnie. On voit que le cortisol est quand même nécessaire pour avoir un bon niveau d'énergie. Donc c'est une hypothèse que je pose ici, ça n'est pas la mienne, hein. Attention, encore une fois, je suis pas chercheur, moi je suis juste je fais des recherches, mais à titre amateur comme ça, en lisant les études qui sont là, et après je vous les partage, je vous fais des condensés, mais il y a des hypothèses sur le sujet. Et donc du coup, encore une fois, quand on pensait que ces jus donnaient de l'énergie directement, en fait c'est plutôt en empêchant d'inhiber certaines choses que finalement votre cortisol peut faire son job le matin. Et encore une fois, je vous recommande d'avoir un bon niveau de cortisol. C'est-à-dire que de ne pas avoir un cortisol, évidemment, de manière chronique, sécrété de manière chronique à cause d'un stress ou autre, ou à cause de surentraînement, peu importe, mais plutôt d'en avoir une sécrétion cohérente, c'est-à-dire plutôt un pic en début de journée pour s'éveiller, une réduction en fin de journée pour pouvoir dormir, tout simplement. Bon bref, c'était le sujet pour les aliments pour mieux vieillir, donc j'ai un peu dérivé, mais c'était important quand même d'en parler, parce que j'aime bien parler, et vous savez que le problème, c'est que je suis un peu trop passionné, que des fois je monte un peu trop dans les tours, dans les sujets, donc il faut que je revienne au podcast. Voilà. Donc, on va parler maintenant d'un médecin et psychiatre qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Leonard Schwartz, donc le médecin et psychiatre qui marchait avec des haltères, et donc du coup qui était sec. Bref, en fait, c'est quelqu'un... Ce médecin, donc vous pouvez retrouver l'article, alors c'est en anglais, hein, mais l'article dans les notes là, c'est une personne, donc c'est un médecin et psychiatre qui a profité de la vie, en tout cas des plaisirs de la vie, pendant des années, et il s'est réveillé, donc plaisir de la vie, ça a été tout, hein, enfin pas tout, on dira qu'il a pas, il s'est pas restreint durant sa vie, en tout cas sur les plaisirs de la vie, et arrivé à mi-vie entre guillemets. Donc je crois que c'est autour de la cinquantaine pour ce qu'il a jugé la mi-vie, il s'est décidé de se mettre en forme. Donc il a essayé plusieurs méthodes et puis il arrivait pas vraiment à retrouver la forme parce qu'il jugeait qu'il avait mal au dos. Enfin c'est pas qu'il jugeait, c'est qu'il se sentait avoir mal au dos. Il sentait ne pas avoir une bonne forme physique, un bon élan de vie, de d'énergie, etc. Donc il a commencé un petit peu à faire des recherches, à regarder ce qui fonctionnait le mieux dans un minimum de temps, etc. Donc là on est en 1981. Et donc, il lui est venu l'idée de comparer des sports. Donc, il a regardé la natation, il a regardé le vélo, il a regardé le cyclisme et tout ça. Et en fait, il a découvert quelque chose, c'est que les athlètes qui avaient la meilleure VO2 max, donc la VO2 max la plus élevée, comme ils disent, généralement considérée comme un bon marqueur, un bon indicateur de forme cardiovasculaire, c'était pas les cyclistes ni les coureurs, mais les skieurs de fond. Et donc du coup, il s'est dit bon ben finalement comment il en est venu à la déduction simple en fait qu'il faisait fonctionner le bas et le haut du corps en même temps, parce que quand vous faites du ski de fond, je sais pas si vous en faites, vous en avez déjà fait ou quoi, moi j'en ai fait pas mal quand j'étais enfant, jeune, jusqu'à ado, on va dire. Et c'est vrai que enfin pas mal, j'en ai fait régulièrement, parce que pas mal voudrait dire souvent, là non, j'en ai fait l'hiver régulièrement. Et c'est vrai que le ski de fond est quand même une pratique relativement physique, puisque vous avancez, donc il y a un travail avec le bas du corps, hein, les jambes, et il y a un travail avec le haut du corps. Pourquoi ? Parce que avec les bâtons, justement, vous plantez, vous tirez, vous poussez. Enfin bon, voilà, il y a quand même un travail assez complet du corps. Et forcément, bah, plus il y a de masse musculaire engagée dans un mouvement, bah forcément plus ça chauffe, quoi, plus ça brûle, plus votre corps, plus vous bouffez de la calorie entre guillemets, quoi. Et donc lui, il en est venu à l'idée finalement de se dire comment je pourrais faire ça finalement, mais dans mon quotidien, dans, enfin voilà, s'il n'y a pas de neige, s'il n'y a pas, enfin voilà. Et en fait, il en est venu à la conclusion, enfin à la méthode qu'il a appelée Heavy Hands, et c'est une méthode où vous marchez avec des poids dans les mains. Donc, marcher avec des poids dans les mains. Donc, quand vous avez la jambe gauche qui est en avant, ben, vous avez le bras droit qui fait un curl avec un halter d'un kilo, par exemple. Et vice-versa, quand c'est l'autre jambe qui est en avant, c'est l'autre bras qui fait... Alors, c'est pas juste les poids à bout de bras comme ça, pendus, genre la marche du fermier, comme vous voyez dans les épreuves de force. Non, là, c'est vraiment, à chaque pas, c'est comme si vous aviez des bâtons de ski dans les mains. Donc, il faut quand même faire le curl avec la main, la flexion, quoi, pour avoir une bonne stimulation. Donc quand vous lisez l'article qui reprend un peu, parce qu'après lui il a vendu les haltères, il a vendu une méthode, un bouquin là-dessus, etc. Donc il y a eu tout un business installé autour de ça, pardon. Et donc du coup, dès qu'il y a un business, bah, vous savez, de toute façon, les Américains, enfin je sais même pas s'il était américain, mais je pense que si, il y a toujours, ils aiment bien le marketer tout ça, et puis mais la méthode n'est pas stupide. Rappelez-vous, alors pour ceux qui avaient suivi mon cours que j'avais fait sur la méthode nordique, vous savez, le style de vie nordique ou scandinave, je crois que j'avais appelé ça Ragnarok, le cours Ragnarok, d'ailleurs que je vous invite à aller voir, parce qu'on a énormément à apprendre et à s'inspirer des pays nordiques aussi bien sur certaines pratiques physiques, mais aussi de style de vie. Et je parlais justement de la marche nordique. Donc petit, je vous fais un petit spoiler du cours. Vous savez que la marche nordique, donc marcher avec des bâtons, ça n'est pas sorti d'un chapeau comme ça. En fait, c'était un préparateur physique de, je sais plus si c'était pour les JO ou quoi, au XXe siècle, qui s'était rendu compte que il n'arrivait pas à entraîner ses athlètes durant les périodes où il n'y avait pas de neige. Donc il était un peu embêté. Et donc finalement, la marche nordique est née de ça, c'est-à-dire de marcher avec des bâtons. Et ça permettait aux athlètes qui n'avaient pas accès à la neige de pouvoir continuer à s'entraîner pour le ski de fond finalement. Et ce sport-là, il y avait même des études, je les ai moi-même lues, les études où ils montraient justement que la marche nordique était plus intéressante en termes de dépenses que la marche tout court. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une action finalement du haut du corps. Et même, en fait, l'avantage qu'il y avait, c'est que même on a l'impression qu'avoir des bâtons, ça va nous aider. Donc effectivement, ça nous aide. Mais c'est pas que ça nous aide, c'est qu'en fait, on sature pas qu'un seul groupe de muscles. Par exemple, quand vous marchez, au bout d'un moment, vous allez saturer le bas du corps, donc les fessiers, les ischios, les quadris, les mollets, etc. Et donc du coup, ça brûle, ça fait mal. Mais ça veut pas dire que vous avez brûlé plus de calories qu'une personne qui aurait utilisé le haut du corps. C'est juste que vous avez saturé, donc vous avez brûlé. Au lieu d'avoir un seul groupe de muscles qui fonctionne, vous en avez plusieurs avec la marche nordique. Donc du coup, vous brûlez plus, mais ça brûle moins en fait, ça brûle moins de manière douloureuse puisque justement vous utilisez plus de groupes musculaires. Et donc c'est relativement intéressant. Mais bon, je reviens un petit peu à ce fameux docteur Leonard Schwartz, médecin et psychiatre, qui a inventé ça. Donc sa méthode elle est simple, session de 30 minutes avec des haltères de 1 kg, donc lui il dit 2 livres, donc ça fait à peu près 1 kg par main. Donc en prise neutre, hein, sur la photo on voit il prend en prise neutre plutôt, mais peut-être que qui varie. Donc faut avouer que vous le voyez là, la photo là, vous l'avez dans les notes de l'émission, il est sec, hein. Il est sec, il y a de l'épaule, il y a du biceps, il est en forme, hein. il y a pas à dire, il est bien en forme. Donc session de 30 minutes avec haltère dans les mains, le pied droit en avant, le bras gauche pompe l'haltère, le pied gauche en avant, le bras droit pompe l'haltère, etc. pendant 30 minutes. Et alors les limites qu'il y avait, il disait qu'aujourd'hui ça aurait dû être résolu avec parce qu'on aurait accepté ça. Lui c'est le regard des autres, parce que effectivement quand vous marchez comme ça, alors si vous avez les haltères le long du corps sans faire de curl pendant que vous marchez ça va, mais si vous êtes en train de faire des curls comme ça en marchant un peu rapidement, on a tous l'image au bord de la plage ou même dans un bois ou dans un parc d'une petite mamie qui marche comme ça avec les cheveux violets et le bandeau rose en faisant de la marche rapide, et quand on la regarde on a un petit sourire en se disant elle est à fond dans son petit truc, alors que finalement elle a totalement raison et on devrait plutôt prendre exemple. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes vont avoir une résistance vis-à-vis du regard des autres à pratiquer ça en fait en pleine nature comme ça devant les gens courent, les gens marchent, se promènent, et si nous on est en train de se balader comme ça d'un pas très décidé en faisant des curls en même temps, bon les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'il nous fait celui-là. Et en fait c'est pour ça que ça, certainement une des hypothèses c'est que ça a pas été suivi, parce qu'on sait qu'une des pires choses c'est le regard des autres, hein, pour beaucoup de personnes, hein. C'est pas pour rien qu'il y a une des plus grandes peurs partagé étant la peur de parler en public. Donc on voit bien quand on a l'impression de devenir d'attirer trop l'attention ou d'être ridicule, on va plutôt éviter de faire quelque chose. On a des tas d'exemples pour ça. Et donc lui il disait que ça serait de l'histoire ancienne au 21e siècle parce que les gens auront compris et tout, mais c'est faux. En fait, c'est pareil et on a toujours ce problème là. Donc moi ma petite idée par rapport à ça, parce que je trouve le concept extrêmement intéressant encore une fois, moi j'aime les méthodes comme ça qui allient physique, enfin où il y a un petit peu où les gens se travaillent un petit peu pour trouver des solutions et quand c'est bien expliqué et tout ça, c'est toujours intéressant. Mais vous pouvez le faire en fait, hein. Alors il y en a qui vont dire oui, ben tu le fais en salle de sport. Bien sûr, déjà vous pouvez le faire en salle de sport. En salle de sport, vous serez moins jugé que dans la rue ou quoi, parce que vous pouvez expliquer aux gens, ce sont des gens concernés par le sport, ils vont comprendre et voilà. Mais l'autre technique que je vous recommande, si vous avez chez vous ou un tapis de course ou même vous savez les petits steppers là, les steppers de téléachat là qu'on vendait, vous savez où il y a que les pieds qui bougent, ben là vous mettez là-dessus avec des poids. Alors si vous avez peut-être pas de poids de 1 kg, parce que personne n'achète aujourd'hui des poids de 1 kg. En général, on commence un petit peu plus élevé, mais Ce que vous faites, vous prenez juste la tige de vos haltères, si vous avez des haltères réglables dans les mains, et puis voilà, quoi. Et comme ça, au moins, ça vous permet de tester la méthode à l'abri des regards et de voir. En fait, le concept, c'est de taper le maximum de calories. Alors, pas de taper le maximum de calories réellement, mais en fait, d'ouvrir le maximum. Quand je dis ouvrir, ça veut dire d'activer le maximum de groupes musculaires sur un temps d'effort donné, quoi. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Et voilà. Donc, après, est-ce que vous allez atteindre les 8% voire moins tout en faisant que ça et en évitant de faire une diète? Je ne crois pas, mais ce genre de pratique, encore une fois, moi je pense qu'elle peut venir s'ancrer dans des styles de vie de personnes qui sont arrivées déjà à une alimentation trop pauvre en calories. Et encore une fois, moi je me répète, mais mieux vaut faire plus de sport que de réduire son apport calorique. Donc, beaucoup de personnes ont dit il y a deux méthodes pour perdre du poids. Il y a soit augmenter sa dépense calorique par le sport, soit réduire son apport calorique par l'alimentation. En fait, ça c'est une donnée, très cartésienne, qui rassure tous ceux qui aiment bien mettre des chiffres dans des cases. Mais dans la réalité, on voit bien que mieux vaut avoir déjà dans tous les cas une alimentation saine, ensuite faire du sport, mais de plutôt jouer sur le curseur sportif que sur le curseur hypocalorie. Pourquoi? Parce que en fait, au bout d'un moment, vous savez, il y a des tas de micronutriments dans l'alimentation, et plus vous êtes au régime, moins ça vous traverse, moins vous en profitez, et mieux vaut avoir, par exemple, une nutrition, je vais dire un exemple, des chiffres au hasard comme ça, mais mieux vaut consommer 2500 calories et faire du sport pour être en déficit que de consommer 1800 calories et de faire du sport aussi. Enfin, de toute façon, 1800 calories, vous allez très souvent être en déficit, et de faire du sport par-dessus. Pourquoi? Parce que justement, cette méthode, par l'alimentation, conduit toujours, lors de stagnation, à toujours réduire l'alimentation. Alors que par l'effort, et souvent on voit que les personnes qui font pas mal d'efforts ont assez peu de difficultés à avoir une belle sangle abdominale, à avoir un bon niveau de sèche. Donc, évitez de trop taper sur votre diète. Ayez votre diète saine. Ayez une diète calibrée, évidemment. Si vous n'avez pas une diète calibrée, ça marchera pas, même avec tous les efforts du monde. Mais de plutôt inclure ce genre de routine. Et vous savez, parfois, même 10, 15, 20 minutes, en plus de votre séance de musculation, c'est toujours ça de gagner. Surtout quand on a un mode de vie sédentaire, assis en permanence, etc. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'avais envie de vous partager ça parce que, encore une fois, c'est une méthode que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais pas. Si, je la connaissais à travers mes yeux quand je voyais des gens qui le faisaient dans la rue. Donc, c'est vrai que c'est plus admis d'avoir la marche nordique avec bâton qu'avec des haltères dans les mains. Ça fait, on est à mi-chemin entre, vous savez, la petite mamie qui marche comme ça, bien tonique, avec un halter dans chaque main, et la méthode Rocky, un peu, le gars qui sort, qui marche, lui, il marche pas normal, il marche avec des haltères dans les mains. On est un peu à mi-chemin entre les deux. Mais allez voir la photo, c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour voir la tenue qu'il porte, le petit short court, le petit Marcel, et il est super en forme. C'est super, super, super papy, quoi. Et voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui tiendrait à bien fonctionner en groupe. Vous savez, par exemple, si vous êtes coach, donc encore une fois, j'en reviens à ça, mais si vous êtes coach et que vous faites par exemple de temps en temps des sessions de groupe dans des parcs, des choses comme ça, là, ça peut être intéressant parce que avec la communauté, les gens n'auront pas honte finalement. Ils seront pas isolés, ils seront tous avec leur petit poids là entre eux, et ça peut être intéressant. Après, de manière isolée, effectivement, le regard des autres peut un peu freiner, et il faut le reconnaître. Même moi, je me verrais pas honnêtement marcher comme ça dans un parc avec une deux, un curl droit, un curl gauche en même temps, ça va attirer l'attention. Bon, voilà, il y en a qui diraient mais faut dépasser ça. Bon, la réalité est que c'est quand même assez compliqué quand tout le monde vous regarde, quoi, de dépasser ce genre de choses, quoi. Voilà, mais bon, après vous avez ma petite méthode sur le stepper, sur un tapis de course ou voilà, quoi. Mais sinon, faites-le en groupe, ne serait-ce qu'à deux déjà, avec une copine, avec un pote, avec votre chérie, ça peut le faire, puisque justement on a moins honte à deux. Voilà. Mais après, si vous n'avez pas peur du regard des autres, que ça vous dérange pas, foncez, hein. J'ai envie de vous dire, ça se trouve, ça va même intéresser des gens. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Et à partir du moment où on explique aux gens, ils y trouvent de l'intérêt, finalement. Et peut-être qu'à l'époque, malheureusement, il est décédé. Hein. Il est décédé à l'âge de 84 ans. Leonard Schwartz, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment médiatisé, ou alors qu'il avait beaucoup de concurrence à côté. Mais en tout cas, c'est Super Papy, quoi. Voilà, tapez ça sur Google Images, vous verrez, c'est Super Papy. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Allez voir tous ces liens, ces photos et tout dans les notes de l'émission. Et on se retrouve très rapidement, soit en VIP pour ceux qui basculent, soit sur le site, soit en podcast ou sur YouTube. On verra. D'ailleurs, je pense que ce jeudi, il n'y aura peut-être pas de vidéo du jeudi parce que j'ai pas encore tourné la nouvelle saison. Il faut que je m'y mette, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment, beaucoup de demandes également. C'est pour ça qu'il y a des retards aussi pour les consultations, parce que j'ai trop de demandes. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Très bonne semaine à toutes et à tous et entraînez-vous bien. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement, donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.